installer des applications depuis des magasins d'apps alternatifs à l'App Store, ça on s'y attendait. Mais télécharger des apps directement depuis des sites web d'éditeurs ou de développeurs, ça c'est la surprise d'iOS 17.5, première bêta publique. Mais c'est seulement possible en Europe grâce au DMA et on va y revenir. L'abandon de l'Apple Car laisse un grand vide dans les projets d'Apple à 5 ou 10 ans. Alors maintenant que le Vision Pro est sorti aux États-Unis, dans quel domaine Apple fera-t-il l'événement ? Mark Gurman met une pièce sur un domaine bien particulier, les robots. Le lien avec l'intelligence artificielle n'est pas anodin, mais ce projet nous fait-il rêver pour autant ? Pas si sûr. Et puis les news de la semaine avec le JT à suivre les nouveaux iPads commence à laisser des traces avant leur officialisation, en tout cas en Inde. Apple qui passe un accord à potentiellement 50 millions de dollars pour entraîner ses IA sur une énorme base d'images. Et puis Tesla qui demande de l'aide à Apple pour prouver son absence de responsabilité dans un accident de la route mortelle il y a plus de 5 ans aux États-Unis. iWeek, un podcast rendu possible par le soutien de notre communauté. Merci à tous. Pour les rejoindre et nous aider, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. C'est le 180e épisode d'iWeek, la semaine Apple, en ce dimanche. Et oui, dimanche 7 avril 2024, il est 11h52 du matin à Paris. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Vincent, soyez les bienvenus. J'accueille tout de suite mes complices du jour et je commence par toi, Fabrice Neumann. Salut Fabrice.
Salut mon capitaine, salut à toutes et tous.
Et salut, mentor en technologie, on te retrouve sur ton site.
Ouais, sur mes sites maintenant. Oh là, j'en ai deux, incroyable. Ouais, bon, non, c'est trop. Alors, neumann.fr, où des fois, je délire un peu et j'écris des trucs. Allez voir, des fois, c'est rigolo.
Et l'autre, c'est quoi, alors?
L'autre, c'est... Il y a un lien vers le second à partir du premier. Vous trouverez ça là.
D'accord, c'est un jeu de piste.
Oui, bon. Ça rime avec fumiste.
Allez, Gilles, on va jouer dès qu'on aura fini. Salut, Gilles Dounès.
Salut, toi tu es Benjamin Vincent et oui. Moi je suis ravi d'être avec vous ce dimanche matin.
Eh bien pareil Gilles, je rappelle que tu es l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et le co-auteur de l'excellent iPod Backstage, livre de référence sur l'iPod chez Duno. Alors on attaque tout de suite avec l'événement de la semaine, c'est la sortie de la bêta publique d'iOS 17.5 avec... Un petit détail qui nous intéresse directement en Europe, c'est la possibilité de télécharger, d'installer des apps depuis des sites web. Alors, ça y est, hein, la fracture dans l'écosystème App Store est en place. Fabrice, c'est une petite révolution pour Apple et pour l'iPhone. Il y a quand même une ou deux conditions à respecter si on est éditeur ou développeur et qu'on veut mettre son app à disposition.
Alors, c'est les mêmes conditions que pour ouvrir un App Store, comme l'a édicté Apple en réponse au DMA, naturellement. Pour l'instant, on peut dire même que c'est fluctuant, cela dit, parce qu'on sait que l'Europe et Apple sont en discussion, semble-t-il, très serrées, parce que ça a l'air de changer toutes les semaines. Et puis, rappelons, on avait parlé de ça dans le dernier numéro, que... suite aux détails donnés par Apple sur ce qu'ils voulaient mettre en place comme justement règle pour l'arrivée d'App Store alternatif et aussi de la possibilité d'installer des applications directement depuis un site web, l'Europe a dit ouais mais c'est peut-être pas exactement ce qu'on a demandé donc il va falloir revoir ça. Et notamment, hein, on rappelle aussi que l'arrivée de l'installation possible depuis un site web, c'était quelque chose qu'Apple ne voulait pas faire au début et que l'Europe a clairement dit donc, c'était pas l'un ou l'autre, c'était les deux. Donc c'est pour ça que ça arrive avec la 17.5 et que ce n'était pas présent dans la 17.4 qui marquait la première grande cassure dans ce que tu disais justement, l'App Store pour tout le monde.
Oui, il y a eu deux étapes en fait. Hein. Ça s'est fait en deux temps. Donc la deuxième étape, Apple est en train de la franchir avec cette bêta publique, hein, donc que n'importe qui peut installer à la seule condition de s'inscrire au programme bêta. Pas besoin d'être développeur comme dans le cas des bêta développeurs. Gilles, Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette, cette ouverture et cette possibilité qui arrive d'installer des apps sur son iPhone, finalement, comme on le fait depuis toujours sur son Mac?
Oui, on a la possibilité. Est-ce qu'on a intérêt à le faire? Est-ce qu'on a la culture de la sécurité pour le faire aussi? J'en suis pas persuadé. Alors, ça va ravir tous les accros de Fortnite qui vont pouvoir se jeter sur leur tablette et sur leur iPhone. Ça va faire un peu plus de sous pour monsieur Tim Sweeney qui récolte de façon transversale toute plateforme confondue. C'était ça le but de la manœuvre. Et on a, à mon sens, un nouveau monopole qui va se mettre en place de façon transversale. C'est ça le
danger.
Comment
c'est un nouveau monopole ?
On ne pourra acheter le truc vedette, le jeu vedette d'Epic Games, Fortnite, le jeu que tout le monde veut, on ne pourra l'avoir que sur la plateforme d'achat de Epic Games.
Ah, mais c'est parce qu'Apple. Bah oui, c'est parce qu'Apple a dit non, nous on veut plus le distribuer. Ils aimeraient bien Epic Games.
Oui, mais parce qu'ils avaient, ils s'étaient essuyé les pieds sur à peu près la quasi-totalité de leurs engagements contractuels, comme l'a montré le procès aux États-Unis entre les deux sociétés, et comme l'a fort justement souligné à l'épisode précédent mon excellent ami Fabrice Neumann. Donc
oui, mais tu peux pas leur reprocher de créer un monopole alors que ils ont quand même subi le bannissement de Fortnite, même s'ils l'ont un peu cherché.
Ils l'ont un peu cherché, donc on a une concentration horizontale. J'ai pas pris de cours d'économie de toute ma scolarité, mais j'ai eu d'excellents profs de géographie qui m'ont expliqué ça. C'est que il y avait la concentration verticale, comme on peut avoir dans l'industrie lourde, ou comme croit le voir la commission avec l'industrie électronique. Mais là, ce qu'on a, c'est une concentration horizontale sur toutes les plateformes possibles et imaginables, et qui va servir en plus de collecte aux fameuses, je suis pas la proie des idées fixes, mais la collecte de données personnelles qui vont être abandonnées parce que vous prenez.
Ah, ça y est, tu recommences.
Oui, je recommence, mais je vous dis, c'est le charbon et du 19e siècle et le pétrole et l'électricité du 20e pour ce dont tout le monde parle actuellement, qui est l'intelligence artificielle. C'est à ce niveau-là.
Ah, stop.
Ok, mais on parle
dans des trucs. Ouais, moi, j'ai une question pour mon excellent ami Gilles. Est-ce que c'est pour toi un monopole qu'on ne puisse pas acheter des Peugeot chez Renault?
Non, mais la commission, encore elle, a déjà mis son nez, et on peut acheter des pièces de n'importe quelle marque dans n'importe quel détaillant qui vend des pièces pour voitures et des pièces neuves. C'est à ce niveau-là que ça.
Tu parles de Neuroto, tu parles pas de. Bon, arrêtons la comparaison avec l'automobile. Restons dans notre univers. Je voudrais revenir à ma question de départ, qui était ça devient possible avec la bêta de la 17.5, mais il y a quand même toujours un certain nombre de conditions, notamment pour les éditeurs qui veulent mettre en place cette distribution depuis leur propre site. Il faut être toujours développeur depuis au moins 2 ans, donc avoir un compte développeur depuis au moins 2 ans, et avoir, comptabilisé au moins 1 million de téléchargements dans l'année précédente. Qu'en est-il de cette fameuse taxe de 50 centimes d'euros? Est-ce qu'elle continue de s'appliquer quand on distribuera ces apps depuis un site web?
Alors pour l'instant, ça n'a pas changé, ça. Hein. Donc ce core technologie fee de 50 centimes d'euros que le développeur paye au-delà de, d'un million de téléchargements de chaque app par an, ou de téléchargements in-app d'ailleurs, hein, je crois que c'est compris aussi. Ça, ça n'a pas changé. On sait, cela dit, que Apple a quand même plus ou moins déclaré qu'il travaillait sur la question pour voir s'il fallait revoir cette règle, peut-être en l'assouplissant dans certains cas et pas dans d'autres. On verra bien comment ça se passe. Mais là aussi, très clairement, de la part de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, il y a une demande que ce ne soit pas aussi rigide que ça. Donc ça s'applique. Donc c'est pour ça que la Commission européenne a bien dit à Apple que c'était pas soit des magasins alternatifs, soit le téléchargement par le web, c'est que c'était les deux et que les règles, les mêmes règles s'appliquaient aux deux. Et puis un petit détail, Gilles disait tout à l'heure, je ne sais pas si on a la culture de sécurité pour faire de téléchargement d'applications via les sites web. Pour l'instant, il semble que ce soit à peu près la même chose qui se dessine sur l'iPhone que ce qu'on a déjà sur le Mac, c'est-à-dire que lorsque on télécharge des applications sur un site web qui n'ont pas été notarisées ou notariées, pardon, par Apple, ou en tout cas qui répondent pas exactement aux règles édictées par Apple, il faut alors, il y a un message qui s'affiche et qui sera à peu près le même sur l'iPhone. Pour l'instant, vous n'avez pas autorisé ce site web à télécharger des applications. Allez dans les réglages, cochez cette fonction-là, cette option-là, et ensuite retournez sur le site web pour télécharger l'application. Donc il y aura des messages qui, semble-t-il, d'après ce qu'on a vu pour le moment, ne sont pas plus contraignants que ce qu'il y a sur le Mac, et a priori sur le Mac, ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, finalement, à mon sens.
On dit un mot des autres nouveautés de cette version 17.5 ? Parce qu'il n'y a pas que donc cette nouvelle possibilité de téléchargement d'app depuis des sites web d'éditeurs ou de développeurs agrémentés. Il y a un certain nombre de nouveautés pas inintéressantes non plus.
Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein.
C'est... un ou deux trucs, quand même.
Ouais, deux trucs.
Petite indication de ce qui va arriver peut-être au mois de mai.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Apple continue à travailler sur la sécurité autour des AirTags et de tout de tous les appareils compatibles. Donc ces petits appareils là qu'on met sur ses clés, sur dans le portefeuille pour pouvoir les retrouver, et malheureusement qui sont utilisés un peu trop souvent, et déjà une fois c'est trop souvent, pour espionner quelqu'un. Donc il y a des histoires malheureusement qui se répètent, semble-t-il, et c'est le plus souvent aussi dans ce sens-là, comme d'habitude malheureusement, c'est-à-dire que les femmes se font espionner par des hommes, soit par leur mari, soit par d'autres, avec des AirTags qui sont mis dans leur sac, dans la boîte à gants de leur voiture, voire j'ai vu il n'y a pas longtemps un article parlant d'un AirTag cousu à l'intérieur d'une doublure d'un manteau, d'un vêtement, pour que ce soit pas vu, quoi. Et donc jusqu'à présent, les AirTags qui ne sont pas à soi se mettent à sonner au bout d'un certain temps. Je ne me rappelle jamais si c'est plusieurs heures ou deux, trois jours, si jamais on est trop près d'un AirTag qui n'a pas été installé par soi-même. Il
je
se
crois
signale.
C'est beaucoup moins long que ça. Hein.
Ouais, je crois que c'est quelques heures en fait.
Ouais, on va vérifier, mais
ouais, parce
je me demande si c'est pas moins que ça. Ouais.
En tout cas, et donc ça permet de se signaler. Donc il se signale en sonnant. Si on a un iPhone, on a aussi une alerte sur l'écran disant tiens, il y a un AirTag qui vous suit, ceci, cela. Et donc dans la 17.5, il y aurait a priori une nouvelle fonction qui permet non seulement d'être prévenu, mais aussi de désactiver un AirTag qui serait près de soi et qui
ça,
se serait
hein.
signalé. Ça, c'est nouveau.
Ouais.
De désactiver un AirTag qui n'est pas à soi. Alors, on commence, je trouve, quand même à rentrer, malheureusement, parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Alors là, les êtres humains, je vais dire. C'est que... la technologie n'est faite que de ce qu'on en fait, quoi. Et donc cette belle techno qui permet de retrouver ses clés quand on les a perdues, ou de retrouver un vélo quand on se les fait voler, comme ça a été mon cas, c'est aussi trop souvent détourné, et c'est bien dommage.
Alors, je pensais évidemment à cette nouveauté concernant les AirTags et les trackers en vous posant la question. Je pensais aussi à ce petit morceau de code un peu caché qui a été trouvé par certains. Code qui fait référence à un Apple Pencil V4 et un nouveau geste hein, qui s'appellerait Squeeze. On pense évidemment aux iPads qu'on attend depuis le début de l'année, quasiment ou presque, qui ne sont toujours pas là et dont on parle maintenant pour le mois prochain, le mois de mai. Allez, on va prendre un peu d'avance sur le journal de la semaine, puisqu'on sait que quatre références se baladent un peu dans les bases de données des autorités de régulation, ce qui confirmerait l'arrivée potentielle de deux nouveaux iPad Pro et de deux iPad Air, dont le fameux grand modèle qui serait une nouveauté. J'ai fait un package avec toutes les infos là.
Oui, on aurait l'iPad Pro en deux modèles d'écran. Que devient quid du 11 quelque chose puisque on avait une taille standard.
Il serait toujours là. Enfin, il y aurait toujours un petit et un grand. 11 et 12, 9.
Oui, 12 une bêtise ou presque 13. Et puis les deux modèles, le modèle R et le modèle ordinaire, on va dire très ordinaire, selon les commentaires de mes camarades. Oui.
Enfin non, alors, il y aurait un iPad Air, un nouveau, et un iPad Air XL qui serait de la même diagonale que le grand iPad Pro, donc 12,9. Soyons précis.
Et j'ai vu une référence dans je ne sais plus quel site à l'iPad normal d'entre deux gammes, l'iPad historique. On a beaucoup parlé de l'iPad mini et de sa résurrection, de sa sortie de la carbonite. Qu'est-ce qu'il en est dans ces conditions aussi?
C'est sûr que pour l'instant, les quatre références, en tout cas, dont on parle là, a priori, ce serait iPad Pro, iPad Air. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas aussi un nouvel iPad et un nouvel iPad mini, mais en tout cas, les quatre références concerneraient a priori ces modèles-là.
Si jamais il y a un iPad, deux iPad Air, deux iPad Pro, et qu'il y a encore un iPad traditionnel, plus un iPad mini, on continue, je trouve, la marche vers la complexification de toutes les gammes d'Apple, des iPads, des Mac, etc. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a un moment, je crois que Tim Cook il se calme un peu parce que la gestion de toutes ces références, je trouve ça fou, quoi. Et en plus, pour choisir, ça devient tellement complexe. Je trouve ça terrible.
Mais je pense qu'Apple a un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas, entre guillemets, tuer la marque iPad tout court. D'abord parce que c'est le moins cher, donc ils ont besoin d'entrée de gamme. Et puis, je pense qu'historiquement, ils sont obligés de garder le modèle qui a l'ADN de départ, c'est-à-dire l'iPad, et dont sont déclinés finalement tous les autres. Alors, en volume, je pense que l'iPad est toujours... représente toujours des ventes significatives, mais en termes de succès, l'iPad Air, l'iPad Pro et je crois même l'iPad Mini, en tout cas au moment où il était sorti, étaient des succès. Donc, et en tout cas, faisait plus envie que l'iPad, dont la dernière génération était franchement hyper décevante de mon point de vue.
Qu'est-ce qui les empêche de faire comme pour le Mac, d'avoir MacBook Air et MacBook Pro, il y aurait iPad Air, iPad Pro? Et puis, on n'en parle plus. Et l'iPad mini, parce qu'il en faut un plus petit, parce que ça plaît à certains. Et simplifions un petit peu, quoi. Et Gilles faisait référence aux commentaires désagréables qu'on faisait sur l'iPad 10, qui était n'importe quoi. En tout cas, je faisais partie de ceux qui pensaient ça. Si l'iPad disparaît, moi, je pleure pas, hein, du coup, parce que un iPad Air, justement, qui serait en taille standard, avec un prix. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, je croise tous les doigts que j'ai parce que pour avoir un prix à peu près raisonnable, on sait ce que ça veut dire chez Apple. Et ça suffirait comme gamme, il me semble, quand même.
C'est sûr.
Il y a un problème avec le marché de l'éducation. Alors, je rejoins Fabrice sur la complexification, hein, et je vais me faire filer des claques à la fin de l'émission parce que je passe mon temps à fulminer après les gens qui veulent reproduire ce qui a marché dans le passé, mais pourquoi pas un iPad à ce moment-là pour l'éducation, parce que ils font un modèle peu cher avec le service minimum pour le marché de l'éducation et les budgets serrés de tous les et puis il faut faire concurrence aux Chromebooks qui ont saturé et ont sinistré le marché de l'éducation pendant des années et des années.
Bon, peut-être juste pour que les auditeurs comprennent bien, quand Gilles dit iPad, il fait référence à iPad, la lettre E, comme il y a eu un eMac qui se prononce à l'anglaise iMac, sachant que l'iMac en France c'est avec un i et qu'en anglais on dit iMac. Donc ce serait un iMac et un iPad. Il faut être clair sur. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne.
Oui, c'est vrai. Et souvenez-vous qu'il y avait eu un iMet aussi. Hein.
Oui, c'était un Newton avec un clavier.
C'est ça. ça a aussi existé. C'était des produits spécifiques, effectivement, pour le marché de l'éducation. Et je pense qu'il y avait eu aussi... est-ce qu'il n'y avait pas eu des moniteurs spéciaux pour l'éducation aussi? J'ai un petit doute. Enfin, bon.
Je ne sais pas. Ouais.
Je vais y réfléchir. Ouais. Avant de passer à notre deuxième sujet, je vous rappelle qu'iWeek Express, c'est notre podcast en mode breaking news. C'est le tout premier podcast indépendant d'information sur l'écosystème Apple à la parution imprévisible qui est liée directement à l'actualité. Dès qu'une grosse info tombe, on enregistre et on diffuse un nouveau numéro. Et donc, s'abonner, c'est d'autant plus important qu'on ne peut jamais vous dire à l'avance quand ils vont arriver. iWeek Express sur toutes les plateformes de podcast et c'est toujours gratuit. On peut dire que c'est le compagnon indispensable de la semaine Apple. Et donc, si vous appréciez notre rendez-vous hebdo, ne manquez pas de vous abonner à iWeek Express. On passe à l'info de la semaine. Alors, info, plutôt rumeur de la semaine, lancée par Mark Gurman, décidément toujours très bien informé. Vous le savez, Apple a abandonné le projet Apple Car. On a d'ailleurs appris ces dernières heures le licenciement de 600 à 700 personnes qui seraient liées directement à cet abandon du projet Titan. On en vient à se demander, maintenant que le Vision Pro est sorti, quel va être le prochain gros chantier d'Apple. Et Marc croit savoir que les robots seraient une piste de travail très sérieuse chez Apple. Alors, j'ai une question un peu provocatrice à vous poser. Quand on n'est pas capable de sortir un AirPower, est-ce qu'on peut vraiment se lancer dans les robots? Qu'en penses-tu, Fabrice?
Faut bien avouer que... Alors, ta question est marrante parce que je n'avais pas pensé au AirPower, effectivement. Peut-être qu'ils vont le ressortir voiture, parce que ce serait une façon de recharger le robot, donc. Parce qu'il va bien falloir qu'il soit chargé, le robot. Et s'il faut mettre un câble USB-C dedans en lui courant après, ce serait dommage.
Tout sert un jour.
C'est très bizarre cette affaire parce que, en plus, je pense que Gurman, il a l'habitude d'être, comme tu as dit, bien informé et je pense pas que cette histoire de robot, ça date seulement d'il y a une semaine. Il a dû avoir ça sous le coude depuis quelque temps et il en a pas parlé avant l'annonce de l'arrêt de la voiture. Ce qui est très bizarre, c'est que. Ça fait comme si Apple dit bon, on fait pas de voiture, qu'est-ce qu'on fait à la place? Ce qui, me semble-t-il, on peut être à peu près sûr que c'est quand même pas comme ça que ça marche. Quoi. Tous les projets ou les idées sont menées à peu près de front. C'est un peu bizarre. Ça fait aussi un peu bon. Alors non, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui font des robots en face. On va peut-être faire la même chose. Alors a priori, on parle de deux robots. Il y aurait un robot qui pourrait se déplacer dans la maison, pas forcément un robot humanoïde. Hein. Je crois pas qu'on ait encore évoqué un robot Apple avec des bras et des jambes. Mais ce serait a priori plus proche d'un robot. Amazon fait ça, un robot avec un écran et qui roule et qui peut se déplacer dans la maison. Et puis un autre
LG fait ça depuis un ou deux ans. Hein.
Voilà. Oui, voilà. Donc oui, ils sont pas les seuls. Et puis un robot qui serait plus un truc à poser sur une table, plutôt une sorte de caméra motorisée finalement avec un écran pour faire des appels FaceTime avec un suivi des interlocuteurs et aussi pourquoi pas une sorte de reproduction peut-être par écran interposé de comme une persona pour du Vision Pro.
Je crois pas du tout. Ouais. La deuxième option, ça sert à rien. Je veux dire, c'est typique de la yaourtière, le truc. Une fois, tu vas bouger devant ton écran, puis il va te suivre, mais le reste du temps, quand tu fais une visio, en général, t'es assis, tu parles aux gens. Alors quand tu vas faire la cuisine et que t'as besoin de, mais si tu fais la cuisine, tu regardes pas les gens. Tu regardes ta marmite, donc...
En fait, je pense qu'il faut regarder ça avec l'œil de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que ça fait. On parle de FaceTime parce que finalement, on n'en sait rien et qu'on attend toujours les annonces d'Apple en termes d'IA pour la WWDC prochaine, comme on sait. Et que ce genre d'appareil, ça pourrait s'appuyer là-dessus, justement, pour fournir des services et des réponses et tout ce qu'on veut, au-delà d'une conversation FaceTime. Je pense que c'est plutôt ça.
Ouais. Gilles, est-ce que c'est pas plus ambitieux, finalement, de vouloir créer un robot pour Apple que de sortir une voiture ?
Non, si tu prends la vague au bon moment, et si tu vas tu comptes te retrouver au sommet du rouleau, quand il va y avoir l'énergie cinétique maximum pour pouvoir surfer le plus longtemps possible. Là, vraisemblablement pour la voiture, Apple l'avait pris un tout petit peu trop tard, où c'était fait doubler par Tesla et un certain nombre de constructeurs traditionnels. C'est ce qui me faisait... Ce qui me faisait peur, il n'y avait pas de... Pour moi, c'est une question de composant. Est-ce qu'il y a un composant de rupture ? Mark Gurman l'avait annoncé, cette espèce de HomePod à écran dont l'écran pouvait se déplacer. Il n'avait pas dit qu'il se déplacerait tout seul. Ça me fait penser à la pub de l'iMac G4.
Oui, oui.
Le film promotionnel. J'engage nos auditeurs et... Oui, dans la vitrine, c'est ça. Et qui tirait la langue, on était dans une dimension anthropomorphique maximale là.
C'est vrai, sauf que le vrai n'était pas motorisé, hein. C'était une animation dans la pub.
Oui, c'était une animation. Là, ils retrouvent le truc. Peut-être qu'ils vont refaire venir Jonathan Ive, l'illustration du robot qui se déplace par Apple Insider, façon Wally était. Assez alléchante, s'ils en font un, j'ai toujours rêvé d'un R2D2, donc un truc comme ça, je m'en fiche, je m'endette jusqu'à la 7e génération et j'en achète un, rien que pour le fun, mais c'est peut-être une façon de recycler l'idée de l'Apple TV avec un écran, je dis, c'est de la provocation. Mais il faut des usages et des composants de rupture. Sans ça, on va au devant de la même catastrophe que l'Apple Car, quoi.
Ouais. Mais Fabrice, je sais pas, quand on parle robot, je trouve qu'il y a toujours un côté à la fois attirant et hyper anxiogène. Il faudrait faire un coup de la même ampleur avec le robot qu'avec le téléphone mobile, quoi, parce que il faudrait vraiment qu'Apple ait une vision révolutionnaire pour en faire un produit de mass market que tout le monde voudra.
C'est toute la difficulté. En gros, Apple ni personne d'autre n'a réussi à refaire le coup du smartphone, qui est totalement universel. Et c'est pas les appareils comme les iPin de Humane ou le truc Erwan de Rabbit là qui remplace le smartphone pour l'instant. En fait, le truc c'est que la rumeur est tellement floue qu'on a quand même du mal à avoir un véritable avis. Est-ce que vraiment Apple cherche à refaire un coup comme l'iPhone, ou à essayer de trouver en tout cas un nouveau marché de débouché, et c'est pas tout à fait pareil. Et un robot, le mot robot en plus englobe tellement de choses différentes que on verra bien. Et ça peut être aussi un assistant à la personne. Il y a donc un assistant chez soi. On a déjà plein de robots chez soi. On a des machines à laver. Certains ont des robots aspirateurs. Et puis et ainsi de suite. Donc il y a forcément un marché là-dedans. Et je persiste à penser que c'est aussi lié à l'intelligence artificielle, parce que ça ne peut se baser que là-dessus pour si ça veut être un assistant valable pour rendre service. Et que je ne pense pas qu'on puisse avoir un jugement quel qu'il soit sur une telle annonce de robot avant d'avoir entendu l'histoire racontée par Apple autour de l'IA.
Ouais.
Il y a un truc, c'est que on oublie là maintenant, c'est qu'il y a la dimension santé que Apple investit de plus en plus. Alors c'est complémentaire par rapport à ce que disait Fabrice, et au Japon. Dans les maisons de retraite ou les hôpitaux, où il manque beaucoup de main-d'œuvre, comme dans tous les secteurs là-bas, un certain nombre de robots ont été déployés avec cette dimension anthropomorphique, donc une espèce d'écran comme les téléviseurs des années 70, faisant fonction de tête, qui discutent avec des patients ou des personnes âgées en l'occurrence, et ça calme les angoisses parce que il y a un interlocuteur, y compris un interlocuteur à distance. Donc il n'est pas impossible non plus que, comme pour le Vision Pro, Apple est dans l'idée de destiner cette version plus lourde et plus onéreuse du robot qui se déplace à un marché de la santé au sens large, du bien-être.
Du tout, hein. Je crois pas du tout du tout.
C'est une possibilité si.
Non, mais c'est-à-dire que ces besoins décrits par Gilles, ils existent dans les EHPAD et autres partout ailleurs. Mais comme disait Benjamin, c'est pas des marchés de masse. Donc ces besoins existent. Est-ce que c'est Apple qui peut y répondre? J'ai comme un doute. Et puis on n'est vraiment pas du tout dans un marché de masse. Mais au final. En tout cas, pour l'instant, le Vision Pro, c'est pas un marché de masse non plus.
Ben non, c'est vrai.
Et sans vouloir être méchant, il semble que ce soit même un tout petit marché, parce que globalement, il n'y a pas de liste d'attente pour acheter des Vision Pro. Ils ont pas l'air, les gens n'ont pas l'air de se précipiter tellement pour en acheter. Je suis désolé, Florent Morin, notre camarade développeur qui passe sa vie dans le Vision Pro. Il adore ça, c'est très bien, mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais le marché paraît pas tellement développé. Et on commence même à voir, j'ai entendu ça dans des podcasts américains, des endroits qui font des soldes sur les Vision Pro. Ça s'annonce pas terrible, hein. Globalement, ça prend pas.
Non, mais il faut dire ce qui est. C'est un produit fabuleux, mais qui reste trop cher et hors de portée pour ceux qui aimeraient se l'offrir, donc qui en ont pas un besoin professionnel. Donc, je suis d'accord avec toi sur le marché de niche, mais sur le Vision Pro, c'est vrai qu'on peut facilement voir à 5 ou 10 ans, et effectivement, on imagine le jour où ce sera une simple paire de lunettes,
bien sûr,
qui coûtera 5 fois moins cher, qui tiendra peut-être une semaine et qui fera aussi bien que le gros masque qui appuie sur les arêtes du nez.
pour des objets comme ça. En rupture, il faut garder l'analogie avec le Lisa et le Macintosh, je crois, que ce soit pour le Vision Pro, chose qui avait été validée par Ellie, hein, et qui avait eu les deux en avant-première.
Gilles, ce qui est sûr, c'est que, et là, c'est un point où je te rejoins, c'est que ça fait des années que, notamment les Coréens, font des robots de toutes les tailles, toutes les formes, avec écran, sans écran, avec des bras, sans bras, avec des roues, sans roues. Amazon en fait aussi. Tout le monde fait des robots et personne ne trouve vraiment la formule magique. Enfin, Quelque part, c'est... de ce point de vue-là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a connu avec la téléphonie mobile avant l'arrivée de l'iPhone, d'une certaine manière.
Oui.
Donc peut-être qu'Apple va arriver avec un concept génial devant lequel on va se dire « Putain, c'est ce qu'on aurait aimé faire. Mais » Mais il faut vraiment trouver la formule magique.
À ceci près que tout le monde avait un téléphone mobile, à part moi, dans sa poche. Et j'avais dit « J'aurai un téléphone mobile le jour où Apple en fera un. » Ce qui a fini par arriver.
Mais tu es tellement exclusif, c'est pour ça.
Un robot, c'est pas le même usage. Il va y avoir quelques geeks, quelques hipsters qui vont
mais
vouloir
ça, dépend,
ça dans une cuisse.
Ça dépend de ce qu'il pourra faire et ça dépend de la manière dont il aura été imaginé. Ça,
il aurait été pensé, oui. C'est pour ça que je parlais d'usage, surtout de composants. Et Fabrice avait tout à fait raison, on parle tant d'intelligence artificielle.
Bon. On va suivre ce feuilleton, en tout cas, cette nouvelle piste qui s'ouvre pour Apple.
Oui, on va en reparler au numéro 1000 d'iWix.
Voilà, c'est ça. Peut-être, peut-être des robots un jour. Peut-être un sosie de Tim Cook dans les couloirs de Cupertino pour taper sur les collaborateurs qui travaillent pas assez, qui viennent pas faire leurs 3 jours par semaine. En tout cas, un message important pour nous, vous le savez, c'est l'existence de la communauté iWix sur Patreon, à l'adresse patreon.com/iWix. Bah, si vous appréciez notre travail hebdomadaire et parfois quotidien, bien merci de jeter un œil à la page Patreon, de rejoindre la communauté. Vous nous aiderez ainsi à continuer l'aventure et à vous proposer toujours plus de contenu et à élargir nos possibilités aussi, puisque on est un petit peu dépendant des finances, comme on dit. On passe au journal de la semaine. Alors, comme on est dimanche fin de matinée, que c'est l'heure du marché, on va faire notre marché dans les news. D'abord, peut-être dire un mot de ce qui s'est passé à Taïwan ces derniers jours. C'était jeudi, ce tremblement de terre spectaculaire. On a vu les images des immeubles effondrés ou à la limite de l'effondrement, pas mal de Taïwanais portés disparus. Il y a aussi eu des conséquences industrielles autour de ce tremblement de terre, notamment pour TSMC, mais qui a pu reprendre sa production au bout de 48 heures.
Je trouve ça incroyable, ouais. Parce que pour fabriquer des processeurs tels qu'on les connaît, notamment ceux d'Apple, la précision demandée est telle que pouvoir reprendre la production au bout de quelques jours après un tremblement de terre qui a dû donc tout faire bouger. Je suppose qu'ils ont prévu que l'usine est montée sur pilotis à roulettes, je ne sais pas, des trucs comme ça. Parce que même ça, c'est-à-dire que TSMC, est, en termes technologiques, est incroyable et je suppose que leur bâtiment l'est aussi, en fait, pour être capable de reprendre aussi vite. Je suis très impressionné, pour ma part.
Oui, il y avait eu un précédent... On en a parlé dans la presse normale, entre guillemets, qui était il y a une bonne vingtaine d'années, et qui avait mis par terre toute la production taïwanaise et qui avait intéressé Apple au premier chef, puisque c'était le moment, l'interface dans lequel Apple avait présenté l'iMac G4 qui devait enfoncer le clou de l'iMac G3 avec une mémoire de dernière génération, le premier écran TFT de série pour un ordinateur grand public avec un prix extrêmement intéressant, et le tremblement de terre avait causé des dégâts tels que Apple, le prix de la mémoire et des écrans avait augmenté de façon extrêmement importante. Apple était revenu sur le prix, avait proposé de prendre à sa charge la moitié de l'augmentation du prix qu'ils étaient obligés d'afficher et de rembourser les gens qui avaient précommandé et qui ne pourraient pas... ne pourrait pas absorber l'augmentation du prix. Donc, tous les industriels, ensuite, quand ils ont reconstruit ou construit des usines, ont sûrement pris des précautions telles que ce genre de problème ne puisse pas arriver parce que ça avait été paralysé pendant un mois ou deux, là.
Ouais, bon, et on imagine que l'usine suit les mêmes règles antisismiques qui ont quand même évité le pire à Taïwan. Et donc, bon, plus de peur que de mal, en tout cas, du côté de TSMC. Peut-être que les puces qui sont sorties au moment du tremblement de terre seront pas aussi bonnes que les autres, mais j'imagine qu'elles sont sorties du circuit et qu'elles ne vont pas servir dans nos appareils. On dit un mot de l'iPhone 16 qui est en préparation, de la gamme iPhone 16 qui devrait être présentée au mois de septembre prochain. La rumeur est plus précisément Zielek, source hautement recommandable, explique que Apple travaille d'arrache-pied en ce moment sur la diminution de la bordure de l'écran. L'idée, ce serait avec des iPhones du même volume d'avoir des diagonales d'écran encore plus importantes. Le problème, c'est que ça pose un vrai défi en termes d'industrialisation. Aucun des fournisseurs d'Apple, c'est-à-dire Samsung, LG et BOE, pour l'instant, n'ont réussi à résoudre le problème qui consiste notamment à plier certains des câbles, certaines des connectiques qui passent en fait sous la bordure des écrans. Alors, aucun doute qu'ils vont y arriver, mais bon, on est au mois d'avril. Je crois que la production des iPhones vraiment doit partir à fond les ballons au tout début de l'été pour être au rendez-vous du mois de septembre. Et donc, c'est sans doute un des défis qu'Apple doit résoudre pour que cette gamme iPhone 16 soit au rendez-vous à la rentrée, Fabrice.
Alors, par où commencer ? Si c'est pas résolu en avril, c'est trop tard. Parce que pour que la production commence, il faut que les outils de production soient prêts aussi. Et ça se fait, mais pas en route en 3 semaines. Ça me paraît pas possible. Donc je crois à rien de tout ça. En plus, après, au niveau marketing, quand l'iPhone 10 est sorti, Apple nous a déjà dit « Tiens, c'est un écran bord à bord », ce qui n'était donc pas vrai. Ils vont dire quoi maintenant ? Ils vont pas dire qu'ils ont réduit les bordures, puisqu'ils ont déjà dit qu'il n'y avait plus de bordures, en gros. Ils ont osé dire que c'était des écrans bord à bord, et alors que c'était pas vrai. En dernier truc auquel ça me fait penser, quel est le problème ? Il y a des boîtes comme Samsung et d'autres qui ont sorti des iPhones... des smartphones, justement, pas des iPhones, avec écran bord à bord, sans bordure du tout, et ça fait des années. Donc, de quoi on parle ? Je pense que là, on est en plein délire on sort des infos pour noyer le poisson, et que Apple est en train de nous enfumer pour qu'on parle d'autre chose.
Carrément.
Ah ouais, complètement.
Diversion. Gilles, ça te semble... crédible dans le timing, ou est-ce que ce serait déjà trop tard, effectivement ?
Oui, Fabrice a tout à fait raison. Il faut les moules, le process soit validé, revalidé, revalidé avec double tamponné au niveau des pré-séries, etc. Donc on le saurait au niveau de l'industrie, et Apple avait déjà réussi à faire des exploits au moment de l'iPhone 3G et 3GS avec le fameux design en savonnette qui était difficile à maîtriser. Ils en avaient fait des caisses là-dessus. Non, c'était le terme qui était utilisé. Vous êtes
oui, mais je me souviens,
les enfants.
Je me souviens très bien de la forme du 3G.
Non, puis ça glissait autant qu'une savonnette, c'était très bien.
Dans la douche, quoi.
Sauf que au bout d'un certain nombre de mois, les coques se fendillaient au niveau de la courbure parce que les tensions étaient trop importantes au niveau de la résine et du plastique. Donc, ça ne peut pas s'improviser en quelques semaines s'ils n'y sont pas arrivés depuis Depuis un an ou deux, quoi. C'est pas...
Bon, bah, on va espérer du coup que cette info soit de date d'au moins de plusieurs semaines, ce qui laisserait espérer qu'ils aient trouvé une solution depuis et que le process de fabrication en grande série soit prêt pour l'iPhone 16. On passe à une autre news, alors, qui je trouve est bien plus intéressante parce que elle ouvre des perspectives notamment pour la WDC. C'est le deal passé entre Apple et Shutterstock, donc cette banque d'images. On parle d'au moins 50 millions de dollars pour le droit d'utiliser des millions d'images de la base Shutterstock pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle d'Apple. Ça, c'est pour la partie image. A priori, l'accord avait été signé à la fin de l'année 2022. On l'a appris que cette semaine, mais donc ça ferait un an et demi. Côté contenu, Apple a aussi été en discussion avec de grands groupes médias et grands groupes de presse, dont Condé Nast et NBC. Pareil, pour pouvoir aspirer leur contenu et nourrir ces moteurs d'intelligence artificielle. Bon, toutes les news convergent, on peut dire.
sur l'IA oui, bien sûr. D'ailleurs, je voulais revenir sur un aspect du dernier épisode. Il me semble qu'on n'a pas suffisamment souligné le fait que, sans utiliser le terme IA, Apple fait de l'IA depuis des années quand même, et que c'est intégré bien dans sûr. Ses appareils depuis des années. Hein. Donc, on entend souvent que Apple est en retard, etc. Alors, elle est en retard sur l'IA générative, mais pas forcément sur l'IA tout court. Et c'est vraiment important de faire la différence. Et notamment en termes d'image, d'image de photo, je veux dire, dans l'application photo, on peut déjà faire une recherche en indiquant je veux des photos de montagne, des photos de chiens, et maintenant même avec la reconnaissance de entre guillemets de visage, on peut demander je cherche des photos de mon chat, de mon chien, qui va de tous les animaux domestiques, enfin une partie des animaux domestiques. Donc, ce qui est effectivement en revanche comme tu disais, intéressant, c'est que Apple essaye d'avoir une approche respectueuse des droits d'auteur, notamment. Ce qu'on reproche beaucoup à OpenAI, qui, semble-t-il, aspire les données, les traite et puis s'excuse après, ou s'excuse pas du tout. Et Apple fait pas ça. Apple essaye de trouver des données. L'IA repose sur le traitement d'immenses bases de données. C'est vraiment important pour apprendre. Mais en payant les gens, en tout cas. Et tant mieux. J'aime autant ça.
Eh oui. Petite nouvelle qui concerne Tim Cook. Alors, Tim Cook, côté portefeuille et portefeuille d'actions et de stock options. La dernière vente de ses actions Apple datait du mois d'octobre 2023. Il avait engrangé 88 millions de dollars en vendant à peu près 500 000 actions. Rebelote, là, et cette semaine, il a à nouveau écoulé 166 410 actions Apple. Voilà, pour un total engrangé de 33 millions de dollars, des actions qu'il avait reçues au titre de la performance. Et la vente de ces actions est tout à fait dans les clous de ce qui est prévu par les accords d'entreprise dont bénéficient les hauts responsables d'Apple. Je glisse cette info pour vous dire que l'annonce des prochains résultats trimestriels d'Apple aura lieu le 2 mai. Et ce sera un jeudi. C'est assez inhabituel que ce soit un jeudi, mais c'est sans doute lié au hasard du calendrier. On parlera donc des résultats d'Apple pour la période du premier trimestre calendaire, donc qui allait du 31 décembre au 30 mars dernier.
La question, c'est pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant ?
Tu veux la réponse,
parce que c'est pourquoi maintenant ?
Non.
Dire
pourquoi Tim Cook exerce ? C'est parce que on a vraisemblablement de bons résultats devant nous, et à ce moment-là, Tim Cook dit je les vends avant de risquer de d'avoir un délit d'initié sur les bras. Si les résultats sont mauvais, c'est un peu la même chose pour la WWDC.
Oui, alors
si les annonces sont à la hauteur, si les annonces sont à la hauteur, l'action risque de s'envoler. Et donc si Tim Cook les exerce après les annonces, il encourt une sanction de la part du gendarme de la bourse, la SEC américaine. Et au contraire, s'il les exerce avant des résultats catastrophiques et un plongeon de l'action du titre, à ce moment-là, c'est là où il risquerait d'être sanctionné. Donc,
ça augure
plutôt.
Il les a pas vendus au plus haut, en tout cas, hein, parce que l'action, elle a frôlé les $200. Là, je crois qu'elle est redescendue autour de 160, entre 160 et 170. Donc, il l'a pas du tout vendu au plus fort. Donc oui, c'est sans doute dans un souci de, oui, comme tu le dis, de pas être accusé de profiter de des informations dont il a connaissance. Mais pour autant, oui, je sais pas. Il aurait quand même pu aussi les vendre à un meilleur moment. Mais bon, il a sans doute été conseillé pour ça et je ne m'en mêlerai absolument pas. Petite news pour ceux qui ont un Vision Pro, je pense à nos amis Baptiste Dajon, Florent Morin et quelques autres. Enfin du contenu Apple Immersif annoncé pour le masque de réalité mixte. L'Apple Immersif, c'est ce format le plus bluffant, celui qu'on découvre à la toute fin des démos qu'on peut faire aux États-Unis dans les Apple Store. Je vous l'avais raconté après mon passage à New York. Le documentaire, le film sur les dinosaures est annoncé pour le 19 avril dans le Vision Pro. Et j'avoue que ça fait envie, parce que j'en ai eu quelques secondes dans le trailer qui m'avait été diffusé pendant la démo, et c'est très impressionnant. Alors je sais que je vous en parle, malheureusement vous n'avez pas eu l'occasion de le tester, mais ceux qui ont un Vision Pro, qui ont pu en faire le test, savent que ça va sans doute être assez impressionnant. Et puis je voulais qu'on finisse avec cette petite news, cette petite info dans laquelle Tesla en fait a besoin de l'aide d'Apple pour prouver qu'une Tesla n'est pas en cause dans un accident mortel, puisque Tesla est persuadé que le conducteur de la voiture en fait était sur son iPhone en train d'utiliser son iPhone au moment où il aurait dû plutôt regarder la route devant lui. C'est assez inhabituel que Tesla demande un coup de main à Apple.
Ils n'ont pas besoin d'eux, ils demandent les fadettes, et à ce moment-là, ils savent à quel moment le conducteur était au téléphone, et à ce moment-là, si c'est dans la fourchette dans laquelle il malheureusement est arrivé l'accident, c'est que le conducteur était au téléphone et puis c'est fini. C'est vers l'opérateur que Tesla devrait se tourner. Il y a quelque chose de bizarre à mon sens là-dedans.
On ne parle pas d'être au téléphone. Hein. Utiliser son iPhone, c'est évidemment pas uniquement être au téléphone. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir. Je pense que c'est on en parle parce qu'il y a Tesla et Apple dans la même phrase. Au final, ce sont des procès comme ça qui sont éminemment importants pour essayer de déterminer que la loi détermine qui est responsable quand il y a un accident à bord d'une voiture automatique, à conduite automatique. C'est évidemment éminemment important pour Tesla qui quand il y a un accident, si c'est on dit que c'est la faute de Tesla, du coup c'est ça met à mal sa sa volonté de développer les technologies de conduite automatique. Et là, Apple, c'est pas tellement Apple, c'est savoir si le conducteur qui, donc c'est un accident de 2018, donc on était très loin de la conduite complètement automatique, donc le conducteur était obligatoirement et même légalement l'obligation d'être attentif. Donc il faut pour Tesla prouver que le conducteur n'était pas attentif, et que ce soit à cause d'un iPhone, d'un smartphone Samsung, d'une tasse de café ou autre chose, c'est pas tellement lié. Donc on en parle parce qu'il y a le mot Apple dedans, mais le fait que ce soit Apple, ça n'a aucune importance en fait.
Alors il se trouve que la victime était un ingénieur d'Apple, et en fait une fois après l'accident, les enquêteurs ont retrouvé l'iPhone dans la voiture. L'iPhone était allumé, et c'était un jeu. Il y avait un jeu de stratégie en fait sur l'écran. En revanche, les logs et ce que les enquêteurs ont réussi à sortir de l'iPhone n'ont pas permis de dire si le conducteur était activement en train de jouer au moment de l'accident. C'est pour ça que Tesla aimerait qu'Apple témoigne au procès pour dire si oui ou non il était en train de jouer, et donc sans se préoccuper de ce qu'il avait devant lui. Il faut dire qu'il a quand même percuté une barrière d'autoroute à 100 km/h, hein, donc l'accident a été quand même assez violent, et l'autopilote était a priori engagé. Donc tu as raison, Fabrice, ça pose effectivement une vraie question de responsabilité. Aux États-Unis d'ailleurs, la conduite autonome n'est possible que s'il y a un conducteur derrière le volant, hein.
Alors oui, il y a des zones d'expérimentation à San Francisco aussi, par exemple. Il y a une boîte qui s'appelle Waymo qui a des voitures totalement automatisées sans conducteur dans certaines portions de la ville. Ça a été, alors il y a eu des accidents, des accrochages. Il me semble que la mairie de San Francisco a mis le holà pendant un certain temps. Enfin, il y a eu des discussions comme ça. C'est tout ce qui est sur les niveaux de conduite autonome 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est quand il y a vraiment plus besoin de personnes dans toutes les conditions de conduite sur toutes les routes. On n'en est pas encore là. Conduite autonome fait des progrès, mais on n'en est pas encore là. Donc c'est pour ça que toutes ces trucs-là, c'est éminemment important pour des boîtes comme Tesla ou comme Uber, par exemple, aussi, qui très ouvertement, ces différents patrons ont très très ouvertement dit qu'ils voulaient faire des voitures autonomes pour plus avoir besoin de gérer l'humain parce que ça les ennuie. S'il y a des accidents comme ça qui rendent responsable la conduite autonome, Uber va perdre des milliards de dollars. Donc c'est pour ça que ces procès sont éminemment importants.
Bien sûr. Et tu parlais de San Francisco, mais à Las Vegas la semaine dernière, j'ai aussi croisé des taxis sans chauffeur du tout, là, pour le coup. Dans lequel je ne suis pas monté. Moi, j'ai juste pris une Tesla qui se conduisait toute seule, mais avec un conducteur au volant. Oui. C'est déjà suffisamment impressionnant.
Oui, bien sûr. Alors, en fait, donc ces voitures sans pilote du tout, c'est possible sur des portions. Elles ne peuvent sortir des routes qui sont prédéterminées. Donc il y a une portion de carte totalement prédéterminée et dans cette zone-là qui est donc numérisée au centimètre près avec du GPS et tout ce qu'on veut. À ce moment-là, on peut faire quelque chose dans un environnement fermé. On peut faire quelque chose de précis et qui fonctionne. Mais voilà.
Ouais, mais j'avoue que c'est impressionnant. J'étais au feu rouge à côté d'une voiture dans laquelle il y avait personne au volant, si tu veux. Et la voiture au feu vert a démarré, a tourné à gauche. Et on était quatre files de voitures côte à côte. Et dès qu'on avait démarré, qu'on a engagé le virage, on roulait tous à 50, 60 km/h.
Ouais,
Tu te dis, bon, bah, pourvu qu'elle freine au prochain feu rouge, quoi. Voilà, c'est.
Bah, il faut s'habituer aussi. Il va falloir qu'on s'habitue parce que ces voitures autonomes, notamment dans des conditions comme ça, moi je reste persuadé qu'elles conduisent mieux que les êtres humains, en tout cas qu'un certain nombre d'entre eux.
Donc, pas faux.
Donc, et c'est pour ça que ces procès en responsabilité sont vraiment importants, parce que ça, je pense que même nous, humanité, il faut qu'on accepte qu'il y ait des accidents liés à la conduite autonome, puisque on est obligé d'accepter les accidents quand il y a un conducteur au volant. On les accepte peut-être plus parce qu'on arrive à faire de la détermination justement de responsabilité. Mais il y aura forcément, et il y a eu des accidents liés à la conduite autonome, et c'est normal. Et normalement, il y en a moins. C'est mon espoir en tout cas.
Et il y en aura de moins en moins au fil du temps si tout va bien.
Exactement.
En tout cas, je vous raconte juste ma petite expérience. Donc, c'était, j'ai pris un Uber pour aller de l'hôtel à l'aéroport de Las Vegas, et donc c'était une Tesla dont le chauffeur avait pris l'option autopilot, effectivement. Et vraiment, on a démarré, il l'a engagé. Et en fait, il tenait plus le volant. Il laissait la voiture conduire. En revanche, il restait attentif parce que on était à l'heure du déjeuner, et il m'a dit on était dans la matinée, et il m'a dit qu'on se retrouve avec le soleil de face. Les caméras parfois sont aveuglées, et c'est là où on peut avoir des problèmes. Donc, dès qu'on se retrouvait face au soleil, il était plus attentif. Globalement, ça s'est bien passé, sauf au moment où on est arrivé dans les rampes qui conduisaient vers le terminal de l'aéroport, où là, il a dû reprendre la main sur le volant de manière assez soudaine, parce que à notre droite, un conducteur nous a fait une queue de poisson, en gros, pour changer complètement de fil. Et ça, la Tesla a pas pu l'anticiper. Donc voilà, mais c'était assez impressionnant, je veux dire, d'être dans un taxi dont le conducteur ne touche pas le volant.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que Tesla a fait un changement il y a quelques années en disant qu'il ne voulait plus se baser que sur l'utilisation de caméras pour faire la conduite autonome, en abandonnant tout ce qui est système comme l'IDAR et les radars, etc. etc. Mais du coup, j'avais pas pensé à ça. Si t'as le soleil de face et que ça aveugle la caméra, c'est embêtant quand même. Comme ça aveugle le conducteur. Et que justement, des outils comme un LIDAR permettent de résoudre ce problème-là, je trouve que c'est un point faible quand même dans la démarche de Tesla, ouais. De ne prendre que des caméras pour faire de la conduite autonome.
Ouais, complètement d'accord. En tout cas, ce que je ne savais pas, je pensais que c'était un achat, je pensais que la techno s'achetait une fois pour toutes. En fait, Tesla est passé sur un modèle de location, d'abonnement, et ça lui coûte $200 par mois. Et donc, je lui ai demandé si ça les valait pour lui. Il m'a dit bah oui, parce que ça m'économise quand même pas mal de fatigue. Et donc, il était dans une logique... de monter tout un business avec une quinzaine ou une vingtaine de Tesla, avec des chauffeurs, enfin vraiment de monter une entreprise. Et donc il avait l'air assez séduit par la solution. On passe à nos coups de cœur, nos cartons de la semaine. Gilles, je te laisse chercher de ton côté, je ne sais pas si tu en as ou pas, tu vas nous dire ça dans un instant. Je me tourne d'abord vers toi, Fabrice, parce que je connais ton sujet et je pense que tu as des choses à nous dire.
Du coup, c'est moi qui vais parler d'Apple Podcast pour une fois. C'est plutôt toi qui le fais, Benjamin, en général. Mais là, de nouveau, pour nous plaindre auprès d'Apple, que c'est d'Apple Podcast. Et en même temps, pour remercier certains de nos auditeurs qui ont pris la main sur X pour essayer de trouver une solution, parce que on a quelques auditeurs qui nous ont dit « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» je tape sur le dernier numéro d'iWeek et j'entends le numéro précédent ou celui d'il y a 3 semaines, donc c'est un peu embêtant. Et il y en a qui ont essayé de trouver une solution, et alors je voulais donc remercier notamment Dominique L sur X qui nous a raconté qu'il a fait un petit peu de recherche en disant donc lui il avait Apple Podcast réglé pour ne pas télécharger automatiquement les nouveaux épisodes, donc que quand il appuyait sur le nouvel épisode, quand il allait chercher dans la liste, c'est comme ça que j'ai compris, ça ne déclenchait pas la lecture du dernier épisode mais d'un des épisodes précédents. Et donc il a activé la fonction de téléchargement automatique des nouveaux épisodes et que pour lui ça a marché. Et du coup j'ai partagé sa solution avec un autre de nos auditeurs qui s'appelle sur X Padrig 44 et ah oui. A priori ça a l'air de marcher Padrig. Aussi. Donc voilà, donc je trouve ça très décevant, très triste qu'on en soit à essayer de se partager des solutions presque de trucs et astuces pour essayer de contourner Apple Podcasts qui marche pas. Les podcasts, ça s'appelle podcast à cause d'iPod, quoi. Donc c'est quand même Apple et ils sont pas capables de faire un truc qui fonctionne correctement. Ça ennuie nos auditeurs, ça nous ennuie nous parce que du coup on pense qu'on fait pas notre boulot non plus, donc ça c'est un peu dommage.
Là pour le coup on y est vraiment pour rien, c'est à dire que publie les épisodes et après c'est la machinerie d'Apple Podcasts qui déconne.
Voilà.
On ne peut strictement rien y faire.
Ouais. Donc, on est bien désolé. Donc, on essaie de faire passer les solutions quand il y en a. Et puis, je vais de nouveau aussi parler de ma solution à moi. Excusez-moi, je tourne en boucle. Mais l'onglet vous rebute pas trop, essayez l'application Overcast qui est vraiment plus simple à utiliser, je trouve, et qui fait en plus que tu l'as souvent fait remarquer, Benjamin, que les épisodes arrivent plus vite quand ils sont publiés.
Ouais, beaucoup plus.
Une fois que tu les
publies, immédiatement.
C'est quasiment immédiatement sur Overcast et il faut attendre 10 minutes ou une heure sur Apple Podcast. Voilà, donc moi c'est l'application que j'utilise, Overcast, et je n'en dis je n'en fais que des compliments. Voilà.
Voilà, bon courage si vous êtes sur Apple Podcast. On espère que ça fonctionne pour vous. Si jamais ça ne fonctionnait pas, vous avez donc cette possibilité d'activer le téléchargement. Je vous conseille évidemment de mettre à jour votre OS, le cas échéant de quitter Apple Podcast et de le relancer, voire d'éteindre votre device et de le rallumer, de le relancer. C'est effectivement de la bricole. Ça ne devrait pas se passer comme ça, mais on est un peu obligé effectivement de vous donner quelques pistes en tout cas pour résoudre ces problèmes. Gilles, est-ce que tu as un coup de cœur ou un carton cette semaine?
Le premier pour Fabrice et son utilisation pointilleuse du verbe partager, c'est-à-dire partager avec ou se partager et non vous partager.
Ça me fait tellement plaisir, je n'en peux plus de tous ces gens qui disent « je vous partage », je n'en peux plus. Et des gens bien parfois, hein. C'est hallucinant. Non mais c'est dingue, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? C'est quoi
c'est comme l'appétence, ou il y a des trucs comme ça, assez nouveau, on se l'approprie, ces tendances, et puis...
Mais merci de le relever. Quoi. Merci de le relever, Gilles, et merci, Fabrice, effectivement.
Merci, Fabrice.
De ne pas céder à la mode. Je te partage ma joie.
D'accord, c'est mal.
C'était tout, Gilles ?
Non, il y en a un second. Le second, c'est une série qui est un peu ancienne, une série britannique qui s'appelle Slow Horses.
Ah oui.
Et qui est fabuleuse et qui est
merveilleux.
En gros, c'est un service poubelle du contre-espionnage anglais, et dans lequel le service noble, le MI6, recrache tous ceux dont il ne veut pas. C'est une métaphore qui est
c'est parfaite, le placard, à mon quoi. Avis. C'est vraiment
Oui, c'est même pas un placard, c'est une étable dans la traduction française.
Ouais, exact.
C'est une métaphore parfaite de la violence des rapports et de dans la société britannique. Il y a 3 ou 4 saisons, je ne sais plus, précipitez-vous, c'est vraiment très 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 bon.
Ah oui, avec Gary Oldman en directeur de cette étable, il est infectible. Il a les cheveux gras, il est incroyable. Slow Horses. C'est la fin de cet épisode 180 d'iWeek, la semaine Apple. Merci énormément de votre fidélité. On vous souhaite un bon poulet rôti du dimanche. Si vous aimez notre rendez-vous hebdo, abonnez-vous aussi à iWeek Express sur toutes les plateformes, c'est gratuit. Accessoirement, une petite note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir à l'ego. Et puis un avis sur Apple Podcast, eh bien, ça donnera envie à d'autres de nous découvrir. C'est sans doute le plus important d'ailleurs. Patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté, nous soutenir et puis bénéficier des bonus qu'on a fait. On en refera, hein. Simplement on est dans une période où on a pas la possibilité d'en faire là, depuis une ou deux semaines. Ne désespérez pas, on refera des bonus évidemment pour vous, nos soutiens. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été au rendez-vous dominical pour une fois.
Bah oui, ça fait bizarre de le faire un dimanche, mais écoute, c'est très bien, comme ça on fait cet épisode cette semaine-là. Merci à vous deux et merci à toutes et tous de nous écouter.
Et à très vite pour la suite. Merci Gilles.
Mais avec plaisir, je suis content d'être venu. J'ai appris qu'il y avait des Lego iWeek.
Des Lego iWeek ?
Ah bon ?
Bah oui, ça fait plaisir à Lego.
Ah merci Gilles. Merci. Bien vu, toujours à l'affût Gilles Dounès. À très vite pour la suite mon Gilou. Suivez-nous sur les réseaux Threads, Blue Sky, Mastodon, X ou X Twitter. Vous cherchez iWeek.news ou iWeekNews. Le hashtag qu'on utilise et qu'on vous conseille d'utiliser systématiquement, c'est iWeekLSA comme la semaine Apple. On vous dit à très vite, passez un bon week-end, un bon début de semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 181. Salut à tous.
Bye bye.
À très vite.
Bye bye.